bon réveil. Il est 6h sur Europe 1.
Pas m'attaquer à l'islam, qui est une religion comme une autre. Madame, en revanche, Madame l'islamisme Le Pen, est une idéologie que l'on doit et que salafisme. L'on peut combattre, et vous Madame ne le Pen, faites pas.
La passe d'armes hier soir entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin, un débat centré sur l'islamisme et la loi contre les séparatismes, texte vidé de son sens, selon la présidente du Rassemblement National. Dans ce journal, l'inquiétude en Moselle face à la flambée de cas du variant sud-africain du Covid, les dégâts collatéraux de la fermeture des stations de ski, c'est toute une économie qui est plombée par la crise. Et puis des chasseurs anti-chasse dans le Haut-Rhin. Ils s'opposent à un arrêté préfectoral qui leur demande de poursuivre l'abattage des cervidés.
La page des sports à suivre et puis mon invité inattendu à l'occasion du Nouvel An chinois, c'est aujourd'hui. Vous allez faire connaissance avec le Savoyard devenu superstar à Shanghai. Il a fait carrière dans la chanson. Il chante en langue chinoise et il va nous raconter son parcours très étonnant dans un quart d'heure. Bon réveil à tous, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Marine Le Pen a-t-elle fait preuve de trop de mollesse, comme l'a estimé Gérald Darmanin hier soir? La présidente du Rassemblement National et le ministre de l'Intérieur débattaient sur France 2 et ce dernier ne l'a pas trouvé assez dur sur les questions d'islamisme et de laïcité, l'invitant même à, je cite, « prendre des vitamines ». De son côté, Marine Le Pen a largement critiqué le projet de loi contre les séparatismes, pointant ses incohérences.
Votre loi, elle se retrouve avec plein de trous dans la raquette, vous voyez.
Lesquelles?
Par exemple, les petites filles voilées, on ne pourra pas les empêcher avec votre loi. Et pourtant, c'est terrifiant. Dans les entreprises, monsieur Darmanin, vous savez très bien que beaucoup de chefs d'entreprise sont confrontés à des revendications islamistes. Rien dans votre loi ne leur permet aujourd'hui de pouvoir intégrer dans leur règlement intérieur le refus de ces revendications et de pouvoir donc être à l'abri de ces pressions.
Madame Le Pen, vous dites beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité ou qui ne sont pas le texte ou qui ne sont pas le droit. Quand vous dites que les entreprises n'ont pas les moyens de réglementer la volonté qu'ils ont de mettre la neutralité dans leur entreprise, c'est tout à fait faux. Tout à fait faux. Allez voir pas près qu'une grande entreprise qui fait du recyclage à déchetterie, un chef d'entreprise extrêmement courageux qui a imposé dans son règlement intérieur, avec ses syndicats, la neutralité de ses agents. Vous dites, il faut que les petites filles ne soient pas voilées. Mais personne ne souhaite que les petites filles soient voilées. Mais pour que les petites filles ne soient pas voilées, Madame Le Pen, encore faut-il qu'elles puissent aller à l'école. On ne peut pas à la fois défendre l'instruction à domicile où tout est permis et l'école publique où justement il n'y a pas de voile.
Voilà, et justement, en plein débat sur la loi séparatisme, Marlène Schiappa et Jean-Michel Blanquer lancent une enquête sur la délivrance des certificats médicaux de complaisance pour éviter la piscine aux jeunes filles.
Des certificats pour allergie au chlore. Certaines familles les utiliseraient pour permettre à des adolescentes d'être dispensées des cours de natation. Et selon le gouvernement, Virginie Salmen, la pratique est en augmentation.
Oui, au cabinet de Marlène Schiappa, on fait état de remontées de quelques professeurs sur la recrudescence de ces certificats dits d'allergie au chlore, suffisamment pour justifier un état des lieux précis. L'enquête va être menée par le Conseil des sages de la laïcité, dont fait partie l'enseignant d'histoire Yanis Roder.
C'est une réalité, oui. Maintenant, il faut pouvoir la quantifier. Les échos qu'on a du terrain dans différentes académies, et j'en ai eu moi-même, témoignent justement de remontées de plus en plus nombreuses de certificats médicaux qui dispenseraient des élèves, principalement des jeunes filles, d'activités sportives. La question n'est pas du tout sur la façon de s'habiller des femmes. En l'occurrence, la question, c'est est-ce que les jeunes filles ont droit au même enseignement que les garçons?
L'objectif du gouvernement, c'est aussi de déterminer s'il y a des lieux géographiques spécifiques, dit-on chez Marlène Schiappa, faire une carte de France de ces certificats de complaisance ou de repérer, par exemple, si plusieurs certificats sont signés du même médecin et alerter les ordres départementaux des médecins qui peuvent théoriquement les sanctionner. D'ici 6 mois, les conclusions devraient être rendu public.
Virginie Salmen. Autre titre, ce matin, cette alerte lancée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur la situation épidémique en Moselle.
Les variants du coronavirus concernent de plus en plus de contaminations dans le département, sans que l'on ne sache pourquoi. La situation sur place serait particulièrement préoccupante. D'ailleurs, le ministre de la Santé se rendra sur place aujourd'hui.
Nous avons identifié plus de 300 cas de mutations évocatrices de variants sud-africains et brésiliens ces 4 derniers jours. Ces cas ne correspondent pas tous à des clusters. Les personnes malades n'ont pas nécessairement voyagé, n'ont pas nécessairement été en contact direct avec d'autres personnes ayant voyagé. Nous n'avons pas à ce stade d'explication à la diffusion de ces variants. Dans tous les cas, il nous faut être prêts à agir, évidemment, si la situation devait le nécessiter, afin de protéger la population dans un territoire qui a déjà payé un lourd tribut à la pandémie, je pense notamment à la première vague. Et nous devons aussi agir évidemment pour limiter au maximum les risques de diffusion de ces variants au reste du territoire national.
Et plusieurs élus du département, dont le maire de Metz, plaident pour un reconfinement local.
On en vient à cette question. La météo a-t-elle, oui ou non, un impact sur la transmission du virus?
Plusieurs scientifiques enquêtent pour tenter d'y répondre et ils étudient notamment l'influence de deux facteurs sur la circulation du Covid, les températures et l'humidité. Et on commence à avoir des résultats qui permettraient de prévoir les risques de transmission du climat et des changements de saison. Victor Dolande.
C'est un temps à Covid, ça vous ne trouvez pas? Voici le genre de discussion qu'on aura peut-être dans quelques mois. Et pour cause, des chercheurs français ont réussi à trouver un lien direct entre les contaminations et la météo. En étudiant les gouttelettes qu'on émet lorsqu'on tousse et qui contiennent du virus, ils se sont rendus compte d'une chose, la durée pendant laquelle ces gouttelettes restent en suspension dans l'air et ont donc plus de risques de contaminer quelqu'un. Cette durée dépend des températures et de l'humidité, comme l'explique Alix Roumagnac, président de Predict Service, filiale de Météo France.
Quand il va faire très très froid, ces gouttelettes ou ces aérosols, elles vont tomber au sol. S'il fait très chaud et sec, elles vont s'évaporer. Et en fait, on a un domaine intermédiaire qui se situe en gros entre moins 2 degrés, 6, 7 degrés, entre 60 et 90% d'humidité, où ces gouttelettes ont tendance à rester en suspension et donc potentiellement être ouvert à la transmission.
Ces recherches, suivies de très près par le ministère de la Santé, vont même plus loin. Une application sur la météo du Covid est en préparation. Elle permettra d'ajuster au mieux les recommandations sanitaires en fonction des risques selon les régions et même selon les heures de la journée.
Les explications de Victor Dolande. En Australie, la ville de Melbourne se reconfine aujourd'hui pour 5 jours après la découverte d'un foyer de contamination du variant anglais dans l'un des hôtels qui avait accueilli plusieurs tennismen en quarantaine à la veille de l'Open d'Australie. Le tournoi va se poursuivre, mais à huis clos.
6h07 sur Europe 1, coup d'envoi des vacances d'hiver pour la zone C ce soir, mais toujours sans remontée mécanique dans les stations de ski.
Et outre la fermeture des remontes pentes et télésièges, c'est tout l'écosystème des stations qui est bouleversé par l'absence des skis. De nombreuses professions dépendent indirectement du ski. Elles se retrouvent plombées par cette situation inédite. Jean-Luc Boujon.
Il s'appelle James, il est taxi à Bourg-Saint-Maurice et il n'a jamais connu cela. Passer ses journées à attendre d'hypothétiques clients devant la gare, alors qu'en temps normal, c'est un flot ininterrompu de vacanciers qui débarquent ici en février.
Là aujourd'hui, j'ai rien fait. Pas de clients, pas de réservation. Ma première course que j'ai, c'est jeudi soir, quoi, 23h08. Sur le mois de décembre, j'ai fait moins 90. Là, janvier, je suis à moins 80. Et puis, au mois de février, on sera peut-être moins 70. Ça va être très compliqué, quoi.
Et même les médecins sont touchés dans le cabinet médical de la station de La Plagne. La salle d'attente est vide, inimaginable pour le docteur Bruno Marie.
Habituellement, on est 3 médecins à travailler. Et là, comme vous le voyez, je suis tout seul à travailler, il n'y a aucun patient à 17h, l'heure de fermeture des pistes habituelle à cette période où le cabinet est plein de patients. Et là, il n'y a personne. Aujourd'hui, j'ai dû faire 11 consultations, alors qu'habituellement à cette période, c'est entre 60 et 80. C'est très, très démoralisant. On ne fait pas ce pourquoi on est fait, quoi. Et c'est une énorme perte des recettes de 95 à 96%.
Également touché, les ventes de vin et de fromage de Savoie en baisse de 30 à 40%. C'est donc bien toute l'économie de la montagne très dépendante de ces 4 mois d'hiver, qui est aujourd'hui lourdement pénalisé. La Plagne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
La situation dans les stations de ski, on en reparlera à 6h40 avec mon invité qui préside l'association des maires des stations de ski. Et de l'autre côté de la frontière, en revanche, les stations italiennes, elles, vont rouvrir. On sera en Italie dans la revue de presse internationale tout à l'heure à 7h10.
Attention à la neige et au verglas. Dans l'Indre, la Vienne, la Vendée et les Deux-Sèvres, les 4 départements sont placés en alerte rouge. Météo France prévoit un nouvel épisode important de pluie verglaçante aujourd'hui de la Bretagne au nord du Massif central.
Et puis c'est un comble pour ces chasseurs du Haut-Rhin qui refusent tout simplement de chasser.
En opposition à un arrêté préfectoral qui leur demande de réguler la population de cervidés dans le département et donc de neutraliser massivement les cerfs et les daims. Mais les chasseurs ont choisi de laisser leurs fusils dans leur étui. Arthur Mbaché.
C'est la préfecture qui le demande, il faut prélever du cervidé, même de nuit, à la lampe torche. Ça scandalise le représentant des chasseurs, Gilles Cazuc.
Moi, président de Fédé, je demande à tous les chasseurs du Haut-Rhin de ne surtout pas participer à ce genre d'opération. Parce que tout simplement, ces animaux doivent avoir la possibilité de vivre et de survivre tranquillement sans qu'on soit obligé de leur tirer dessus sans arrêt. Ce n'est absolument plus de la chasse, c'est du massacre.
Ouais, c'est de la com, hein.
C'est de la com, dit Jacques Adam, qui représente 300 petits propriétaires forestiers. Les chasseurs s'érigent, dit-il, en défenseurs de la nature. Protéger Bambi et sa maman, ironise-t-il, pour mieux les tuer à la belle saison lors de belles et mondaines parties de chasse.
Pour attirer du monde, il faut des belles chasses. C'est d'aller s'amuser. Donc quand on invite M. X ou M. Y à chasser, il faut qu'ils voient des cerfs, il faut qu'ils voient des chevreuils, des sangliers, en pagaille. Et puis voilà. Et donc les chasseurs, aujourd'hui, ils n'ont aucune raison Pour diminuer ce cheptel, puisque ce serait dommageable pour l'image de leur chasse.
Pour la préfecture et les forestiers, la surpopulation des cerfs et autres daims empêche tout simplement la forêt de se développer et de pousser correctement. Mulhouse, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Voilà, et ces chasseurs ont prévu de manifester ce matin devant la préfecture du Haut-Rhin à Colmar.
C'était le journal de Sophie Echen, il est 6h11.